Le dévoilement de Dieu numéro 64. C'est Esther, le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Le 11 novembre 2018. Brian Kozurek, pasteur. Mercredi, nous avons parlé du paragraphe 180 du sermon de frère Branham, Dieu te voile, où il dit, 180, que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'église? Oh, miséricorde, bonté divine. Alors qu'on ajoute et retranche, et tout le reste, qu'ils injectent leur propre sujet et leur propre pensée, et non la parole de Dieu. Voyez-vous quel genre de voile est-ce? Ça, c'est Esther d'avoir un voile ecclésiastique. Nous avons examiné ce voile ecclésiastique et l'avons amené là où Jésus le qualifiait de levain, et avertissait les apôtres de se méfier de levain des pharisiens et parlait de leur doctrine, qui consiste à ajouter et retrancher à la parole. Dans un paradoxe d'hymne 17 janvier 65, nous lisons où frère Branham dit, « C'est Esther pour cela que nous, Néhémie, recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos propres idées. » 84. C'est Esther la raison pour laquelle l'église luthérienne Néhémie pouvait pas aller plus loin que qu'elle a fait. Les pentecôtistes et les autres, c'est Esther parce que cette bande de théologiens injecte des choses, cela ne doit pas être ainsi. Ceci est Esther pour un autre jour. Et c'était pour ceux, ça reste là. Cela ne peut pas accrocher jusqu'à devenir cette image parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en vous chaque parole de Dieu, et alors vous devenez cette parole. Comme la semence qui était tombée en terre. Maintenant, c'est Esther là la clé de Romains 8.29. Si le Fils agenais était toute la plénitude de la parole rendue manifeste, donc rien de moins que la totalité de la plénitude de la même parole reçue dans nos cœurs, produira la même image en nous. Il le faut, car la parole est une semence, et chaque semence produira une autre vie exactement selon son image. Rappelez-vous, le fait d'ajouter une parole et de retrancher une parole Néhémie peut produire en nous l'image du Fils premier-né. Ensuite, nous avons pris cette pensée et l'avons examinée à la lumière de la fête des pains sans levain où frère Branham nous a montré que les 7 jours pendant lesquels Israël Néhémie devait pas manger du levain représentaient les 7 âges de l'Église. Et selon la loi du pain sans levain, il devait y avoir une sainte convocation, qui estère un saint rassemblement, lors du premier exode et puis la même chose au dernier exode. Rendant identique le rassemblement alpha et oméga autour de la parole, pendant lequel on Néhémie mangeait pas de levain, ce qui signifie que les gens Néhémie mangeaient aucune doctrine en dehors de la doctrine de Christ. Puis nous l'avons ramené à cette heure-ci où les hommes injectent encore dans le message leurs idées et le polluent, comme l'apôtre Paul le dénonce dans Galates 1.6-9. Galates 1.6-9. Si je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. C'est non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce matin nous prendrons au paragraphe 182 du sermon de frère Branham, Dieu de voile, où nous l'entendons dire, 182 Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des peaux, vous voyez. 183 donc, là, la parole. La parole a été donnée, puis, elle a été écrite, ensuite, elle a été cachée, et elle l'estère encore, voilée, car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen. Il Esther la parole. Toujours. Il était dans cette parole. C'est Esther pour cette raison que cette parole devait être voilée. 184 O. Frères. Sœurs. Saisissez-vous cela? L'assemblée dit, Amen. Tirendez-e. Regardez. Néhémie, voyez-vous pas? Elle a été voilée tout au long de ses âges. Conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ses sept sceaux seraient brisés. Et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé. Tout au long. Lors du message du septième ange. Tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie. En cette dernière heure. Christ. Qui Esther mis à la porte de son église. Le Fils de Dieu. Qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. L'église. Qui doit être mise en ordre et tout. Pour le dernier jour. Sans credo. Sans dénomination. Seulement et strictement la parole. Vivant dans l'individu. J'en prendrai un. Et j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci. Et je laisserai celui-là. Voyez, il y a seulement. Il n'y a pas d'attache. Pas de dénomination. Pas de servitude. Ni rien. C'est Esther le cœur attaché à Dieu. Et à lui seul. Voyez. Ce matin, je voudrais examiner cette pensée où il dit, elle a été voilée tout au long de ses âges. Conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ses sept sceaux seraient brisés. Et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé. Tout au long. Frère Branham nous a fait constamment remarquer tout au long de son ministère que la vie de Christ avait été voilée dans des êtres humains tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il nous a parlé non seulement des prophètes de l'Ancien Testament où nous avons vu certaines portions de l'Esprit de Christ se manifester dans chacun des prophètes, mais aussi tout au long des sept âges de l'Église. Et il a désigné non seulement des hommes comme Irénée, Martin et Colomba ou la même colonne de feu a dirigé la vie de ces hommes, mais il a également désigné d'autres hommes qui n'étaient pas des messagers de l'âge de l'Église mais des gens remplis du Saint-Esprit comme Saint Patrick et Jeanne d'Arc. Et frère Branham nous a montré que c'était Christ dans son Église tout ce temps faisant des choses qu'aucun homme Néhémie pouvait faire. Mais il nous a également enseigné le principe de l'alpha et de l'oméga où ce qui s'Esther passait au premier âge devait se répéter au dernier âge. Et ce n'était pas seulement qu'il y avait un prophète messager sous l'autorité de la colonne de feu qui conduit les gens, mais que les gens aussi dans le premier âge étaient remplis de l'esprit et marchaient dans la puissance de la vie éternelle. Puis, frère Branham dit aux pages 183 de ce sermon Dieu dévoile seulement et strictement la parole. Vivant dans l'individu. Or, il y a un élément dans ce message qui essaye de placer cela juste dans un seul homme. Mais ce n'est pas ce que frère Branham fait ici parce qu'il cite Jésus disant, sourire. J'en prendrai un. Et j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci. Et je laisserai celui-là. Ensuite, il nuance cela en disant, voyez, il y a seulement, il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude, ni rien. Et puis, il fait bien passer le point principal de toute sa prédication en disant, sourire. C'est Esther le cœur attaché à Dieu, et à lui seul. Voyez? Maintenant, je pourrais m'arrêter ici et nous pourrions tous rentrer à la maison si je savais que vous avez saisi ce qu'il dit ici. Et ce qu'il a dit, je veux que vous l'écriviez dans vos Bibles. Parce que c'est Esther là où nous devrions tous être en cette heure d'adoption, c'est Esther le cœur attaché à Dieu, et à lui seul. Si nous marchions tous ainsi avec Dieu et étions si focalisés sur lui et lui seul, vous n'aurez pas besoin de vérifier et de faire l'inventaire de votre vie. Car vous serez tellement amoureux de lui que vous n'aimez, vous n'auriez pas lui déplaire dans tout ce que vous faites. Mais hélas, même si nous sommes fils et filles de Dieu, Nous sommes tous nés dans le péché, façonnés dans l'iniquité et sommes venus dans ce monde proférant des mensonges. Alors nous sommes attachés à ce corps humain qui a ses propres désirs qui, si souvent, veut nous amener à l'encontre du dessein et du plan de Dieu. Mais puisque l'apôtre Paul a vu cette condition, il en a aussi parlé dans Romains 7. Et il a déclaré, « Un ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Or, Paul n'y parle pas de la loi de Dieu mais des lois que Dieu a établies sur la terre, surtout la loi de la vie dans Genèse 1.11 qui déclare que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et il dit qu'aussi longtemps que vous êtes dans la chair vous n'avez pouvez pas échapper à la loi qui vous a donné naissance dans la chair. De ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari y meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari y meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'il commence par parler de la chair et de la loi de la vie dans la chair et puis il tourne l'analogie à la loi du mariage. Et il dit que nous sommes liés au vœu de mariage tant que le mari et la femme sont en vie. Mais ensuite il nous propose un moyen d'échapper au corps de cette mort dans son analogie avec le mariage, et dit, mais si le mari y meurt, alors la femme est libre de se remarier. Ainsi, vous pouvez voir, qu'il parle de la mort du mari ici comme un type de votre mort au moi, tel que vous êtes né dans ce monde. Et il ramène cette pensée directement au chapitre 8. Alors examinons simplement cela pendant que nous continuons à lire le chapitre 7. 4. De même, mes frères, vous-même, votre être, aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, comment? Par le corps de Christ, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que, ou dans le but que, nous portions des fruits pour Dieu. Et pourquoi cela? Parce que le but même du mariage est que la femme porte des fruits qui sont des enfants. 5. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de là, cette loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. De quoi parle Paul-t-il? Il parle de la nouvelle naissance qui supplante votre naissance naturelle. 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit, tu n'es aimé qu'on votera point. 8. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Sans la loi de vie, je n'y serais pas venu au monde façonné dans l'iniquité et proférant le mensonge. Si j'étais né par la parole, par les paroles de Dieu, je serais venu au monde rempli de son esprit, et donc de sa nature, et donc sans péché du tout. 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprévit, et moi je mourus. 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Autrement dit, même si je n'avais pas les lois et les règles de Dieu dans mon entendement, cependant quand j'ai entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, j'ai su que je devais mourir afin de revivre. Et je suis sûr que chacun de vous a vécu ce dont je parle ici. Paul poursuit en disant, 11. Car le péché, que nous savons être l'incrédulité, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Autrement dit, je savais en vertu de la loi que j'étais aussi bon qu'un homme mort. Je savais que je n'étais pas digne de vivre, alors je devais mourir. Car le salaire du péché, c'était la mort. Mais il a fallu la loi, les 10 commandements, pour me montrer que je n'étais pas bon. Il a fallu les 10 commandements pour me montrer que j'étais aussi bon qu'un homme mort. Parce que dans ma chair, j'ai essayé de faire ce qui était juste. Il y avait encore cette nature de la première naissance qui voulait faire autrement. 12. La loi donc Esther sainte, et le commandement Esther saint, juste et bon. 13. Ce qui Esther bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Paul dit, Esther ce que le fait d'arriver à comprendre les 10 commandements m'amène à la mort? Puis il dit, sourire. Loin de là. Mais Esther le péché, l'incrédulité, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui Esther bon, et que, par le commandement, il, l'incrédulité, devais-je condamnable au plus haut point. Maintenant, que dit Paul ici? Il vous dit que, sans aucune connaissance de la parole de Dieu, l'homme vit dans l'incrédulité et il n'émissait vraiment pas que Esther l'incrédulité. Romains 7.7-25 Nif 7 Que dirons-nous alors? La loi Esther est le péché? Certainement pas. En effet, je n'aurais pas su ce qu'était le péché sans la loi. Car je n'aurais pas su ce qu'était vraiment la convoitise si la loi n'avait pas dit, Néhémie convoitait pas. 8. Mais le péché, saisissant l'opportunité offerte par le commandement, a produit en moi toutes sortes de désirs avides. Car en dehors de la loi, le péché Esther mort. 9. Une fois j'étais vivant en dehors de la loi, mais quand le commandement Esther venu, le péché a pris vie et je suis mort. 10. J'ai découvert que le commandement même qui était destiné à apporter la vie a réellement apporté la mort. 11. Car le péché, saisissant l'opportunité offerte par le commandement, m'a trompé, et par le commandement m'a mis à mort. 12. Ainsi donc, la loi Esther sainte et le commandement Esther saint, juste et bon. 13. Esther ce qui Esther bonne Esther donc devenu la mort pour moi? En aucun cas. Mais pour que le péché soit reconnu comme péché, il a produit la mort en moi par ce qui était bon. De sorte que par le commandement le péché peut devenir totalement péché. Frère Branham dit dans son sermon la plus grande bataille jamais livrée dim 11 mars 62-72 donc. C'est ce là que la bataille s'engage, en plein là dans votre pensée, à savoir si vous voudrez. Maintenant, souvenez-vous, il n'est mis s'agit pas de la science chrétienne, là, de la victoire de la pensée sur les matières. Sana. La pensée accepte la vie. Esther a dit à la parole de Dieu, et Esther de là que vient la vie. Seulement, ce n'est pas votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. Voyez, ce n'est pas la pensée, comme le dit la science chrétienne, la victoire de la pensée sur les matières. Non. Ce n'est pas ça. Mais votre pensée accepte cela et saisit cela. Qu'est-ce ce qui contrôle votre pensée? Votre esprit. Et votre esprit saisit la parole de Dieu, et c'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. 73. Ô frère, quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par ce canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. La communion jeudi 18 avril 57-51 Ensuite la bataille des épreuves et des tests commence. Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Je me souviens avoir pensé que lorsque je serai rempli du Saint-Esprit, les batailles seraient toutes terminées. Mais combien je me trompais. Puis j'ai entendu frère Branham nous enseigner que lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, c'est là que les vraies batailles commencent. Quand Israël a traversé le Jordan pour entrer dans la terre promise, c'est alors que leurs véritables batailles ont commencé pour la terre promise. Et c'est ça aussi que l'apôtre Paul dit ici. 14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Autrement dit, le péché ou notre incrédulité est d'une façon ou d'une autre dessus comme un poids qui vous retient. Mais j'aime ce que Martin Luther a dit à propos de ce passage. Il a dit que si la loi est spirituelle, alors seuls ceux qui sont remplis de l'esprit peuvent vivre ce qui est contenu dans la loi. Ainsi, la chair n'est mise pour en aucun cas plaire à Dieu. Et comme le disait frère Branham, c'est le cœur avec Dieu et lui seul. Martin Luther a également dit, et qu'est-ce ce que cela signifie? Si la loi était physique, alors elle pourrait être satisfaite par les œuvres, mais comme elle est spirituelle, personne n'est mis peut la satisfaire, à moins que tout ce qu'elle fait jaillit du fond du cœur. Mais personne n'est mis peut donner un tel cœur sauf l'Esprit de Dieu, qui fait que la personne est semblable à la loi, de sorte qu'elle conçoit un désir sincère de la loi et dès lors, fait tout, non par peur ou coercition, mais d'un cœur libre. Tout comme William Branham a dit, je suis libre de faire tout ce que je veux. Le fait est que tout ce que je veux faire, c'est plaire au Seigneur. Martin Luther a également déclaré, une telle loi est spirituelle puisqu'elle n'est mise peut-être aimée et accomplie que par un tel cœur et un tel esprit. Si l'esprit, l'esprit de Dieu, n'est pas dans le cœur, alors demeure le péché, l'aversion et l'hostilité contre la loi, qui en elle-même est bonne, juste et sainte. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 2, qui nous dit, personne n'est aimé connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Martin Luther a également dit, si la loi était pour le corps, elle pourrait se satisfaire d'œuvres, mais comme elle est spirituelle, personne n'est mis peut la satisfaire, à moins que tout ce que vous faites n'est mis soit fait du fond de votre cœur. Mais un tel cœur n'est à donner que par l'Esprit de Dieu, qui rend l'homme égal à la loi, de sorte qu'il acquiert le désir de la loi dans son cœur, et désormais, Néhémie fait plus rien par peur et par contrainte, mais tout un cœur disposé. Maintenant, je sais qu'il y a des ministres qui utilisent la peur comme outil pour contrôler les gens, mais le chrétien doit apprendre à être tellement amoureux de Dieu que la peur n'a pas sa place dans son expérience avec Dieu. Ça n'existe pas. Son amour pour Dieu Néhémie veut faire que ceux qui estèrent agréables à Dieu. Dans 1 Jean 4.18 on nous dit, la crainte n'estère pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'estère pas parfait dans l'amour. Alors Dieu doit placer quelque chose en nous pour nous amener à ce lieu de perfection et de manque crainte. Et dans Ézéchiel, nous voyons pourquoi Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » C'est pour que nous soyons capables d'accomplir de tout notre cœur sa parole et sa loi. Martin Luther a également déclaré dans sa préface au livre des Romains, « Dieu juge selon ce qui est au fond du cœur. » Et pour cette raison, sa loi impose ses exigences au plus profond du cœur et Néhémie ne peut pas être satisfaite par des œuvres, mais punit plutôt les œuvres qui sont faites autrement que du fond du cœur, telles que l'hypocrisie et le mensonge. Personne dans ses œuvres n'est un pratiquant de la loi, car même si vous pouvez garder la loi extérieurement, par des œuvres, par peur de la punition ou par l'amour ou pour la récompense, néanmoins, vous faites tout cela sans la volonté et le plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt avec réticence, sous contrainte, Et vous préféreriez faire autrement? Si la loi n'existait pas. La conclusion Esther qu'au fond de votre cœur, vous détestez la loi. Qu'importe alors que vous appreniez aux autres à n'aimer pas voler? Si vous êtes un voleur dans l'âme, et seriez volontiers extérieurement un voleur, si vous osiez? Pour cette raison, Paul dit dans Romains 7 que la loi est spirituelle. Car si la loi était pour le corps, elle pouvait se contenter des œuvres, mais comme elle est spirituelle, personne n'aime peut la satisfaire, à moins que tout ce que vous faites est fait du fond de votre cœur. Mais un tel cœur n'est à donner que par l'Esprit de Dieu, en sorte qu'il acquiert le désir de la loi dans son cœur, et n'émit fasse plus rien par peur et par contrainte, mais tout par un cœur disposé. Où cet esprit n'est-il pas dans le cœur, là le péché demeure, le mécontentement vers la loi et l'inimitié envers elle, bien que la loi soit bonne, juste et sainte. Revenons maintenant à Romains 7.14. La version NIF le dit de cette façon. 14. Nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis non spirituel, vendu comme esclave au péché. 15. Je n'ai mis comprend pas ce que je fais. Car ce que je veux faire, je n'ai mis le fais pas, mais ce que je déteste, je le fais. 16. Et si je fais ce que je n'ai mis veut pas faire, je conviens que la loi est bonne. Tel qu'il est, ce n'est plus moi-même qui le fais, mais c'est le péché vivant en moi. 18. Je sais que rien de bon n'est mis vit en moi, c'est à dire dans ma nature pécheresse. Car j'ai le désir de faire ce qui est bien, mais je n'ai mis peut pas le réaliser. 19. Car ce que je fais n'est pas le bien que je veux faire, non. Le mal acquis que je n'ai mis veut pas faire, je continue à le faire. 20. Maintenant, si je fais ce que je n'ai mis veut pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché vivant en moi qui le fait. 21. Alors je trouve cette loi à l'œuvre, quand je veux faire le bien, le mal acquis est là avec moi. 22. Car dans mon intérieur je prends plaisir à la loi de Dieu. 23. Mais je vois une autre loi à l'œuvre dans les membres de mon corps, faisant la guerre à la loi de mon esprit et faisant de moi un prisonnier de la loi du péché à l'œuvre au sein de mes membres. 24. Quel misérable je suis! Qui me sauvera de ce corps de mort? 25. Merci à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je suis moi-même dans mon esprit esclave de la loi de Dieu, mais dans la nature pécheresse, esclave de la loi du péché. La traduction Weymouth le traduit ainsi. 7.20. Mais si je fais ce que je n'ai mis veut pas faire, on n'est mis peut plus dire que c'est à moi qui le fait, mais le péché qui a élu domicile en moi le fait. 7.21. Je trouve donc que la loi de ma nature est que lorsque je désire faire ce qui est juste, le mal acquis me tend une embuscade. 7.22. Car au plus profond de moi-même, la loi de Dieu a toute ma sympathie. 7.23. Mais je découvre en moi une autre loi en guerre avec la loi de mon entendement, et me rendant captif à la loi qui est à l'œuvre partout dans mon corps, la loi du péché. 7.24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps accablé de mort. 7.25. Merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors pour résumer, avec mon entendement, je, mon vrai moi, suis en servitude à la loi de Dieu, mais avec ma nature inférieure, je suis en servitude à la loi du péché. Cet enseignement que Paul nous donne ici ne s'arrête pas à la fin de ce chapitre, mais prend un tournant au chapitre 8 où Paul nous enseigne comment Dieu peut nous sauver de ce corps de mort. À la fin du chapitre 7, il nous dit qu'il y a une seule issue et c'est par Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais à partir de là, Paul nous fait découvrir que le fait d'être en Christ Jésus nous fait passer de n'ayant plus à avoir de condamnation à recevoir l'esprit d'adoption et de là à se manifester comme fils de Dieu, puis de là, être semblable à l'image même du Fils premier-né. Alors, Ouvrons nos Bibles pour donner suite à ce sujet. Et nous verrons dans ce chapitre 8 que nous allons de marcher constamment dans la condamnation. Comme nous le voyons au chapitre 7 à cause de ce que nous faisons dans notre chair, à n'avoir aucune condamnation, comme nous le voyons au chapitre 8 verset 1. Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui n'y marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Remarquez, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation maintenant quand il parlait de la condamnation que nous avons suite à la lutte entre la chair et l'esprit. 7.22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. 7.23 Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui estère dans mes membres. 7.24 Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et puis dans le reste du chapitre 7, il nous dit que notre secours passe par ce que Jésus-Christ a fait pour nous et en renvoyant son esprit pour vivre en nous. 2 En effet, la loi de l'esprit devient Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, au chapitre 7, il a commencé par parler de la loi de la vie telle que nous la voyons dans Genèse 1.11. Chaque semence selon son espèce. Mais maintenant il n'est émis, parle plus de la loi de la vie mais de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Or, cette loi de l'esprit de vie en Christ Jésus estère la même loi de vie dont Dieu a parlé dans Genèse 1.11. Sauf que cela parle de la vie de Christ et de la semence de Christ portant la loi de vie en Jésus-Christ. Alors Romains 7 commence à parler de la loi de vie, dans laquelle vous êtes né dans le péché, et vous êtes venu au monde proférant des mensonges. Mais maintenant au chapitre 8, il parle de la loi de vie en Jésus-Christ qui n'est mis peut faire qu'une seule chose, et s'estère de nous amener au point où nous sommes semblables à l'image du Fils premier-né. Alors regardez comment l'apôtre Paul développe cette image pour nous pendant que nous continuons à lire. 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, incrédulité. 4 Et cela afin que la justice, la juste sagesse, de la loi fût accomplie, ou, remarquez, en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Remarquez, pas notre esprit mais l'esprit, et il n'existe qu'un seul esprit, et c'est-à-dire l'esprit de Dieu. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon le moi, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant, il est important que nous comprenions. Quand Paul utilise le mot chair ici, il parlait de soi. Il n'est mis par le pas des besoins du corps, mais il parle du ça, du soi, de la personne centrée sur soi. Si vous êtes égocentrique, vous n'êtes mis pouvez plaire à personne mais à vous-même. Si vous êtes égocentrique, vous n'êtes mis pouvez pas plaire à Dieu parce que vous n'essayez pas de plaire à Dieu. Vous essayez de plaire à vous-même. Ainsi, Paul nous enseigne maintenant ici à mourir à soi. Si c'est l'affection de la chair, l'égocentrisme ou le narcissisme, c'est-à-dire la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est-à-dire la vie et la paix. 7 Car l'affection de la chair, l'esprit égocentrique, est-à-dire inimité contre Dieu, parce qu'elle n'est mise se soumet, pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'est aimée le peut même pas. Et c'est-à-dire vrai parce que si c'est-à-dire l'affection orgueilleuse et intime de sa propre importance, ce n'est-à-dire donc pas l'affection intime de l'importance des choses de Dieu. 8 Or ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont égocentriques, n'aimés sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous n'aimés vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est ni lui appartient pas. Et là même, cela résume tout. Si vous n'êtes pas rempli de son Esprit, alors il n'y a pas moyen que vous puissiez être concentré sur les choses de Dieu, parce que vous Néhémie pouvez même pas savoir ou comprendre les choses de Dieu, à moins que l'Esprit de Dieu Néhémie soit en vous. 10. Si Christ Esther en vous, le corps, il Esther vrai, Esther mort à cause du péché, mais l'Esprit Esther vit à cause de la justice. 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et nous savons qu'il y a 18 versets qui nous enseignent que c'était Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi, celui, Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Maintenant, un corps mortel est-il un corps qui peut mourir? Mais une fois que ce corps est-il mort, ce n'est plus un corps mortel. C'est un cadavre. Le corps mortel est donc un corps capable de mourir. Donc, cela parle de vous dans votre corps maintenant même pendant que vous êtes en vie. 12. Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors voulez-vous savoir si vous êtes un fils de Dieu ou pas? Regardez simplement qui vous conduit. Si vous êtes conduit par vous-même, vous êtes toujours mort dans vos péchés. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes mort à vous-même et vivant en Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous enseigne également dans Colossiens 3.1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. De affectionnez vos choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et frère Branham dit au paragraphe 186 de son sermon Dieu de voile 186 l'onction Esther une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous, loin. Ainsi, lorsque nous lisons 4 qu'en Christ, la personne qui estère votre vie, paraîtra, quand il fanera, quand il se manifestera dans ses véritables attributs et caractéristiques, alors vous paraîtrez aussi, vous fanerez aussi dans vos véritables attributs et caractéristiques, avec lui dans la gloire, dans la même doxa, dans les mêmes opinions, valeurs et jugements. Pourquoi? Parce qu'il est la personne qui vit votre vie pour vous. Paul dit dans Galates 2.20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi, par la révélation du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ainsi, Paul dit que ce n'est pas moi qui vis dans ce corps, mais Christ a pris le contrôle de mon corps et c'est sa vie qui vit dans ma chair. Quand Christ, qui est notre vie, se manifeste dans son vrai caractère, alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai caractère, parce que ce n'est pas vous qui vivez mais Christ qui vit en vous. 3. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pourquoi il peut dire, si vous êtes mort 5 faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Si c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, sept parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Donc, cela nous dit que lorsque nous le laissons vivre notre vie pour nous, nous sommes semblables à son image. 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, si nous sommes morts, alors il doit y avoir un moyen pour nous de mourir à nous-mêmes. Et dans son sermon, vous devez naître de nouveau, dit 31 décembre 61. M. Frère Branham dit, 28. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était, vous devez naître de nouveau. C'était sa première doctrine. 29. Et nous constatons que les gens y donnent tant d'interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau, mais chacune a ses propres interprétations de ce que ça signifie, naître de nouveau. Je peux me rendre à l'église méthodiste ce matin. Ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Je me rends à l'église baptiste. Ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, on trouverait, si on se rendait dans toutes les 900 différentes églises dénominationnelles, il y aurait 900 interprétations différentes. Ainsi, vu qu'il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part. 64. Maintenant, il y a une approche à cette naissance. Il y a une approche. Et pour approcher cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous, Néhémie, pouvez pas conserver le même esprit. Vous, Néhémie, pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous, Néhémie, pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées, pour renaître avec ses pensées. Ayant-vous la pensée qui était en Christ. Vous devez penser ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance, comment pouvez-vous penser ses pensées et renier sa parole? Et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous, Néhémie, le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ses pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot créature, qu'il cherche alors le mot créature dans le lexique. Là, il verra que le mot créature est interprété ou traduit par une nouvelle création. En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création née de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées comme le serpent d'airain ou comme lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de sa mort. Remarquez, frère Branham a dit qu'il y a une approche à cette naissance. Il nous faut donc savoir ce qu'est l'approche et il nous faut savoir si nous avons suivi la voie pourvue par Dieu. Et cette voie est la voie de la mort. Vous devez mourir, et non seulement mourir, mais vous devez tellement mourir que vous pourrissez à vous-même. Vous devez naître de nouveau, dit 31 décembre 61. Si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Votre nature n'a pas été changée. Maintenant, savez-vous ce que cela signifie? Naître de nouveau? Voyez, votre nature est changée, vous devenez une nouvelle créature. Vous devez mourir d'abord, puis naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau dim 31 décembre 61 m 69, donc ça doit mourir. Bon. Cela n'est mais signifie pas tourner une nouvelle page maintenant. Cette nouvelle année. Vous dites, frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l'Église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il n'est mais s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous, vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. Que vous suiviez la voie des méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d'autre, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que vous, cela vous tuerait. C'est vrai. Vous cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous devez vous sentir si coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur le champ. Là la question du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans sa présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c'est d'être de mourir d'abord afin de revivre. 70 maintenant, vous voyez où je veux en venir. N'est-ce pas, vous voyez cela? Qu'est-ce que la naissance et la nouvelle naissance? Mourir d'abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous? Vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-vous le faire? Rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu'il y a un ordre. Qu'il y a un processus pour naître de nouveau. Et dans son sermon, vous devez naître de nouveau dim 31 décembre 61 et il nous dit ce qu'est ce processus. 67 oui. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, doit d'abord mourir. Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même, à toute chose, afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous n'aimez mourrez pas, vous n'aimez pourrez pas revivre. Vous devez naître de nouveau dim 31 décembre 61 m 64 maintenant. L'approche de cette naissance, il y a une approche. Et pour approcher cette naissance, vous devez passer par un processus, comme tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous Néhémie pouvez pas conserver le même esprit. Vous Néhémie pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous Néhémie pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées, pour renaître à ses pensées. Ayant vous la pensée qui était en Christ. Vous devez penser ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ceci au mieux de ma connaissance, comment pouvez-vous penser ses pensées et renier sa parole? Et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous n'aimez le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot créature, qu'il cherche alors le mot créature dans le lexique. Là, il verra que le mot créature est interprété ou traduit par une nouvelle création. En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées comme le serpent d'airain ou comme lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de sa mort. Nous voudrions voir Jésus dit 24 décembre 6193 Sister, un véritable disciple de Christ. Il vous conduira à la croix. Oh, frère Branham, je suis allé là-bas et j'ai parlé en langue. Cela ne signifie rien. Un mulat a fait cela un jour. Oui, oui. Sister. Oui, je n'ai pas l'intention de me moquer de la sainte parole de Dieu. Je crois au parler en langue, mais les démons parlent en langue. Les gens peuvent parler en langue et mener n'importe quel genre de vie. Mais je veux dire que le diable imite tout ce que Dieu a fait. Et il peut tout imiter sauf la véritable naissance de Christ. Et Néhémie peut imiter cela, parce que vous devez premièrement mourir. Ensuite la parole vous ressuscite. Comment savez-vous que vous êtes vivant? Quand cette parole, chaque mot est l'Esther fait chair en vous. Tout ce que dit la Bible, vous le dites aussi. Et cela arrive exactement comme il l'a dit. C'est Esther à ce moment-là que cela se fait. Quand votre esprit Esther en accord avec lui, il Esther la parole. Quand votre esprit Esther en accord avec ce qu'il a dit, l'esprit lui-même se rend manifeste par sa parole. Alors vous vivez. Vous voyez? Alors, vous Néhémie faites plus d'achats, vous Néhémie faites plus d'échanges et tout le reste. Tout Esther réglé. Pourquoi? Mère 9 mars 6073 oh. À l'heure de votre mort, à l'heure de votre mort, combien vous désirez entendre cela? Puisse l'eau et le sang qui coulèrent de tes plaies être un double remède pour le péché, me garder de la colère et me rendre pur. Vous êtes maintenant ici afin de mourir. La seule façon que vous puissiez naître de nouveau, c'est Esther de mourir premièrement, afin que vous puissiez naître de nouveau. Pourquoi? Je 13 août 5973 mais aussi longtemps qu'il n'y a pas d'espoir que cela pourrisse, la nouvelle vie Néhémie viendra pas. C'est Esther la raison pour laquelle tant de fois nous nous relevons de l'autel sans le Saint-Esprit, parce que nous Néhémie pourrissons pas assez à nos propres idées. Nous devons rencontrer Dieu à son niveau à lui. C'est Esther là que j'aime le rencontrer, car il Néhémie m'a jamais délaissé. 74 de la nouvelle naissance Néhémie diffère en rien de toute autre naissance, c'est Esther un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis j'étais quand je l'ai reçu. Et de temps en temps quand cela vient encore sur moi, je me retrouve encore dans un gâchis avec. Je crie, et pleure à chaudes larmes, et me comporte si étrangement que, je pense, je n'y suis pas très beau à voir, mais cela, j'ai en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, sans cesse, sans cesse de moi. C'est Esther la nouvelle vie. Peu m'importe à quoi ça ressemble, je veux savoir ce que c'est Esther. C'est Esther l'essentiel. Le chemin du retour 23 novembre 6240. Savez-vous pourquoi ils le font? Ils ont peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la véritable nouvelle naissance. Oh! Tout le monde dit, certainement, je crois qu'on doit naître de nouveau. Oui, oui, oui. Mais quand on en arrive à la vraie naissance, ils croient que la nouvelle naissance, c'est Esther le fait de se serrer la main, de réciter un tas de credo, ou quelque chose d'autre. Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Écoutez. Toute naissance est un gâchis. Peu importe si elle a lieu dans une porcherie, ou n'importe où, c'est un gâchis. Toute naissance. Et il en est de même de la nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Mais elle apporte la vie. Et pour que vous puissiez avoir la vie, vous devez passer par la mort. Avant qu'une semence puisse se reproduire, elle doit mourir pour, et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Pour obtenir d'elle une nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est de même de tout pécheur. Et tout homme, peu importe combien il est hautement instruit, combien il est raffiné, le nombre de diplômes qu'il a dans l'église ou que sais-je encore, le nombre de ces choses, dans combien d'universités il a été formé, il doit mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour naître de nouveau du Saint-Esprit. Cela le fera crier, pleurer, parler en langue, sauter ça et là, et se comporter comme un fou. Mais il a une nouvelle vie. C'est ce qu'il faut pour y arriver. Il doit avoir une nouvelle vie. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un gâchis. Or, Romains 8.15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père, c'est l'esprit et il n'y a qu'un seul esprit et c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comment l'esprit de Dieu témoigne-t-il à votre esprit? En vivant votre vie pour vous. C'est Jean 14.12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et souvenez-vous, Jésus lui-même n'y pouvait faire aucune œuvre, sauf ce qu'il voyait faire Dieu dans l'Esprit. Et vous n'êtes pas différent. Si vous êtes fils de Dieu, alors vous avez son Esprit et vous êtes conduit par son Esprit. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés ensemble avec lui. Or, ce mot glorifié vient du grec endoxaso qui est en ou dans la doxa qui sont les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu eso qui est zoé ou dans votre vie. Quand nous sommes glorifiés ensemble, quand les opinions, les valeurs et les jugements même de Dieu se manifestent dans notre zoé avec le sien. 18. J'estime que les souffrances du temps prisonnier mis sauraient être comparées à la gloire, doxa, à venir qui sera révélée en, qui? Nous. 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création attend que vous manifestiez la vie du Fils de Dieu qui est en vous. 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Moins 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par là, liberté de la gloire, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et quelle est cette glorieuse liberté? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez faire, c'est d'être agréable à votre Père. Tout comme Jésus l'a dit dans Jean 8.29, celui qui m'a envoyé Esther avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Cela signifie que c'est une chose juste de désirer ce corps glorifié. 24 car Sester en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit Nester plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? 25 mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26 de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'y savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27 et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est Esther selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28 nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. 30 et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.